Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4 dans l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux acteurs et aux actrices engagés dans les questions de l'écologie et de solidarité à Marseille. Nous sommes en direct ce mercredi 29 juin 2022 de 19h à 20h et l'émission sera diffusée demain de 9h à 10h et le podcast sera disponible sur le site de Radio Galère dans quelques jours. Je suis Chloé et ce soir je suis accompagnée de Arthur.
Bonsoir.
Qui est avec moi en studio et de Marin et Mélina qui sont en régie ce soir.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et ce soir, nous vous proposons un format un peu spécial, car ce soir, nous avons deux invités à vous présenter. Donc, dans une première partie, nous allons vous présenter le Vassilissa Théâtre, qui a à cœur de rendre le théâtre accessible au plus grand nombre. Et en deuxième partie, nous vous présenterons Mélina, notre animatrice, qui va nous présenter son travail de photographe et son exposition photo toujours en cours au café Lécomotive à Marseille. Donc ce soir, nous recevons Nancy, Antoine et Philippe du Vassilissa Théâtre. Bienvenue à vous tous.
Bonsoir. Bonsoir, merci à vous de nous avoir invités.
Et écoutez, on est très, très heureux de vous recevoir. Alors Nancy, toi tu es donc comédienne, metteuse en scène et intervenante théâtre depuis 2006, avec des structures et des publics très variés.
C'est ça, exactement.
Alors des publics très variés tels que les théâtres de quartier, des centres sociaux et culturels, des établissements scolaires aussi.
Établissements scolaires, du lycée, collège, primaire, avec des classes de SECPA.
Des associations. Des instituts spécialisés également,
on a
vu ça.
Voilà.
Des grands enfants.
Avec des grands enfants aussi. Oui, j'ai travaillé avec l'institut dédié aux malentendants.
D'accord.
Au Camoin. Donc ça, c'était très intéressant.
Donc c'est très varié, effectivement. Et donc, on est avec Antoine et Philippe aussi. Oui. Donc vous êtes comédiens.
Exactement. On essaye.
Antoine, au sein du groupe Manifeste, c'est toujours...
Enfin, c'est plus vraiment d'actualité, mais...
Non, le groupe Manifeste n'existe plus.
Ah d'accord, très bien.
En fait, c'était l'ancienne compagnie, parce qu'on fait tous partie des ex-Argonautes.
D'accord.
Voilà, une grande partie du collectif qui s'appelle maintenant Ligne du Désordre.
D'accord, voilà. Très bien. Donc, on se met à la page, très bien. Et donc, je vais peut-être vous laisser vous présenter chacun votre tour. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, nos auditeurs peut-être ne vous connaissent pas. Donc, si vous voulez vous présenter chacun, on vous écoute.
Bah, Philippe, si tu veux commencer.
Oui, juste un petit mot. Moi, je suis venu au théâtre par un théâtre qui s'appelait le Théâtre des Argonautes, qui se situe boulevard Longchamp. C'est là que j'ai rencontré Nancy et Antoine. Ça explique ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que on appelle ça bande de copains, bande d'amis. On a décidé de poursuivre l'aventure. Le Théâtre des Argonautes, cette aventure s'est terminée un peu après le confinement, au moment du confinement, parce que les propriétaires ont décidé de quitter les lieux pour des raisons personnelles, des gens qui avaient envie de partir sur d'autres perspectives. Et à la suite de ça, un peu orphelin de lieu, ou un peu orphelin, non pas de compagnie, mais ni d'envie, mais de lieu, on a décidé de poursuivre l'aventure ensemble. Nancy et Antoine étaient de cette aventure depuis bien longtemps, à la fois à la mise en scène et à l'écriture. Et puis, ils ont initié le fait qu'on se retrouve dans un lieu nouveau qui se situe rue Curiole, qu'on a fini par trouver. On s'est un peu cherché dans différents lieux pour poursuivre nos activités théâtrales. Mais en tout cas, l'envie commune était de poursuivre l'aventure, de ne pas laisser tomber. L'aventure des Argonautes, c'est quelque chose qui a duré une bonne quinzaine d'années. Et de ne pas laisser à Marseille un lieu culturel abandonné, de ne pas poursuivre cette aventure. Voilà, donc moi, je contribue modestement, mais à mon petit niveau, à cette aventure. Et j'essaie de les suivre et en tout cas de bénéficier de leur expérience et de leur savoir-faire. On est une petite quinzaine de participants à ce collectif qui se suivent et on met la main à la pâte à tout ce que... Voilà, c'est notre nouvelle troupe du Splendide, quoi, à Marseille.
Je dirais même une grosse quinzaine, puisqu'il y a aussi pas mal de personnes qui tournent autour de vous pour aider un coup de main, pas forcément pour interagir.
Oui, c'est ça. Il y a les comédiens qui sont là, où il y a ce noyau. Mais effectivement, le groupe est beaucoup plus large parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît, la plupart. Et donc, forcément, on est... un peu plus d'une vingtaine, je dirais, si c'est pas plus. Voilà, et chacun donne, voilà, donne de son temps, de son énergie, et pour faire tourner, ben voilà, ce nouveau lieu. Ouais. Donc, on est assez fiers quand même parce qu'on a beaucoup galéré, ouais, vraiment, ça en pleine période de Covid et tout ça. Et finalement, ben on a trouvé ce local qui est basé, alors oui, au 43 rue Curiole. Voilà, et c'est un lieu assez atypique parce que c'est une ancienne pizzeria. D'accord. Et donc, voilà, le défi, c'était d'en faire un lieu culturel, un lieu pour promouvoir le théâtre. Et ben, je pense qu'on y est arrivé quand même avec nos petites mains et nos idées et sans un franc.
Ah oui.
Mais voilà, on y est arrivé et on est assez fiers parce que depuis octobre, on a démarré tard. On a démarré en octobre, en pleine cinquième vague de Covid. On a eu un petit cluster en mois de décembre. Et en fait, ça a vraiment démarré en février. Voilà, on a commencé avec... bon, les ateliers ont perduré, tout ça, quand même, malgré tout. Mais en février, on a lancé un concert. Et puis, du coup, voilà, il y a vraiment plein de belles choses qui se sont passées depuis. Donc, entre autres, des scènes ouvertes aussi. Et les ateliers, voilà, qui ont été maintenus le lundi soir et le mardi soir. Donc, deux ateliers adultes. Voilà.
D'accord.
Oui, parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de dire, pardon, c'est vrai que Nancy l'a précisé, c'est que c'est à la fois un lieu qui permet d'accueillir tout un tas d'activités culturelles, puisqu'il est très ouvert, aussi bien de la musique, de la danse, des scènes ouvertes, et il est complètement ouvert à la création contemporaine qui peut se faire sur Marseille. Et aussi, c'est aussi l'histoire d'une compagnie, enfin d'un collectif qui produit des créations théâtrales. Donc, il y a à la fois ce lieu que Nancy vient de décrire, et puis le collectif qui travaille sur des ateliers et qui aboutit à des créations artistiques. Là, on a créé un spectacle qui s'est... qu'on a produit trois soirées à la fin du mois de juin et qu'on va reprendre
au
mois d'octobre, à la rentrée. Voilà, donc c'est à la fois un lieu de diffusion et un lieu de création, avec, mais ouvert à toutes les potentialités.
De créativité, effectivement, il n'y a pas uniquement du théâtre.
Non, parce qu'on fait des mises à disposition, donc il y a eu des stages de chant, il y a eu beaucoup de concerts... Et la danse.
La danse, parce que j'ai vu, Nancy, que toi, dans ton parcours, la danse a une place quand même importante, ou a eu, je ne sais pas.
Oui, alors, oui, effectivement, moi, j'ai commencé avec la danse classique, et j'ai fait beaucoup de danse pendant très, très, très longtemps, jusqu'au hip-hop. Enfin, voilà, j'ai eu un parcours assez atypique aussi, mais à 20 ans, 22, non, un peu plus tard quand même, 24 ans, j'ai mis les pieds dans le théâtre. Voilà, sans rien connaître.
Et comment t'es arrivée au théâtre, finalement, de la danse au théâtre?
Ben, grâce à un fly qui traînait sur le pare-brise de ma mère. Voilà. Non, mais voilà, et ma mère a inscrit toute ma famille, c'est-à-dire ma sœur, mon frère, elle, on a tous atterri donc aux Argonautes. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à faire du théâtre et... Et je sais pas, il y a eu un truc qui s'est passé, je me suis dit c'est ça. Et j'ai travaillé d'arrache-pied pour monter sur scène, mais aussi essayer de transmettre. Parce que pour moi, c'est ça le plus important. Il y a des gens qui se sentent pas légitimes d'ouvrir les portes d'un théâtre ou d'aller voir une pièce de théâtre. Parce que bon, on s'imagine que c'est...
C'est pas pour nous.
C'est compliqué. Et moi, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que d'ouvrir un lieu culturel en plein cœur de Marseille, parce qu'on ne peut pas faire mieux que la rue Curiole.
Parce que la rue Curiole, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se situe dans quel arrondissement à Marseille?
On est dans le premier arrondissement et on est vraiment au cœur, entre la Canebière, la Plaine.
Oui, c'est assez central finalement.
Oui, très central.
Au cœur de Marseille.
Et parce qu'il y a pas mal de choses à faire, avec la population, avec les gens du quartier, c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec le lieu, quoi.
Enfin, c'est un quartier authentique, quoi, avec des gens qui ont une histoire, qui ont des parcours divers et assez exceptionnels dans leur genre. Et
exactement.
Voilà.
Oui, c'est ça. Vous avez à cœur de transmettre le théâtre, mais à tout public.
C'est ça, exactement.
Oui.
Adultes, adolescents, des enfants aussi.
Oui, les enfants. Alors, l'année dernière, on a commencé tard, donc c'était un peu compliqué. Mais effectivement, j'aimerais bien refaire des ateliers avec des petits loups. Alors là, cette année, pour la saison prochaine, je propose un atelier ado. Voilà, parce qu'ils sont très en demande. Là, j'ai un stage aussi cet été de 4 jours, un parcours initiatique sur le théâtre.
Et, du 11 au 14
c'est
juillet.
C'est du 11 au 14 juillet, voilà.
D'accord. Et il y a encore des places?
Oui, il y a encore quelques places.
D'accord. Donc, si nos auditeurs ont envie de s'y inscrire, ils peuvent.
Oui.
On vous donnera tous les liens sur les réseaux pour pouvoir vous inscrire et on vous dira un peu plus en détail à un moment de l'émission pour savoir tout ce qu'il faut faire pour pouvoir s'inscrire. Mais du coup, vous étiez venu ici quand même pour parler de la pièce donc, que vous n'avez toujours pas présentée. Qui peut en dire un peu plus autour de cette nouvelle pièce que...
Moi, je peux pas, j'y participe, mais j'ai rien compris, alors je vais parler.
La pièce, c'est un petit délire, en fait. Alors, quand j'étais petite, il y avait une série qui m'a fascinée, c'est La Quatrième Dimension. Voilà, c'est des petits formats comme ça de 25 minutes. C'est une série de Rod Serling, c'est américain, c'est des petits formats de 25 minutes, donc.
Oui.
Et ce qui m'intéressait, et il y a des épisodes comme ça qui m'ont vraiment marqué. Et en discutant justement avec le groupe après un atelier, j'ai dit, il faudrait qu'on travaille là-dessus, quoi. Donc, tout est parti de là. Donc, après, on a fait un choix sur les épisodes. Mm-hmm. J'en ai choisi 5. Voilà, 5 épisodes sur les 3 premières saisons. Et ça a démarré comme ça. Et forcément, moi, il y a eu toute une réécriture à l'intérieur parce que c'est une adaptation très libre. Voilà. Et il y a tout un travail de réécriture où, le fil conducteur était quand même la scène, les artistes, les personnages, les comédiens, enfin voilà.
Et c'est 5 épisodes, 5 séries, donc 5 tableaux
sur 5 tableaux, oui.
Ouais.
Oui, oui. Et complètement différent parce qu'on change d'ambiance et d'atmosphère à chaque fois. Et c'est ça qui me plaisait. Et c'est pour ça que la musique aussi accompagne tout le long du spectacle.
C'est un fil conducteur, ok.
Oui, aussi, puisque la régie fait... son et lumière est autant importante que le spectacle en lui-même avec les comédiens sur scène aussi. Et c'est pour ça qu'ils reviennent un peu à la fin comme ça, nus, quoi, en tant que plus... C'est plus des personnages, mais ils reviennent, eux.
Enfin, nus, pas au sens physique.
Non, non, alors ils sont habillés, hein. Non, mais voilà, sans...
Je confirme, j'ai vu la pièce, oui. Et il n'y avait pas de nudisme.
Non, non, non.
C'est accessible à tout le monde.
Oui.
Oui, oui, oui.
Non, c'est mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce petit espace, ça nous oblige aussi peut-être une plus grande rigueur, nous, en tant que comédiens. Et ça sert aussi à un propos, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui tournent autour de l'enfermement, de l'impossibilité de dépasser certaines limites. Et justement, ces limites, elles sont inscrites dans un espace. Et cet espace, il parle, il se révèle. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'endroits non plus qui sont spécialement faits pour le théâtre. Il suffit d'exploiter les potentialités des endroits et voilà.
Exactement.
Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas encore le lieu, le studio théâtre 43 rue Curiol, comme avant c'était une ancienne pizzeria, c'est pas arrangé avec une grande scène et des gradins, ça a été aménagé au fur et à mesure par les petites mains de ce superbe collectif Les Lignes du Désordre. Donc c'est pas une scène conventionnelle, mais pour l'avoir vu, ça prouve qu'on peut vraiment faire du théâtre et de la création partout. C'est un peu à mi-chemin entre théâtre de rue et théâtre officiel, parce qu'il y a quand même la lumière, etc. Mais c'est très agréable, c'est une très belle pièce. Je sais pas à quel point vous voulez teaser votre pièce, parce que justement, Antoine, tu étais en train de parler de personnages, de mise à nu de personnages, d'espace, et c'est un peu toute la
richesse,
la richesse, mais aussi la problématique de cette pièce. Je vous laisse peut-être déjà dire son nom, et si vous voulez en dire un peu plus, le nom, parce que je crois qu'on a pas dit
la pièce
nom.
S'appelle Zone d'ombre.
Merci Antoine.
Voilà. Et donc effectivement, oui, c'est pas des univers qui se dévoilent dès le premier abord. Le spectateur doit pas s'adapter, mais est peut-être surpris par ce qu'il voit en premier lieu. C'est pas ce qu'il a l'habitude de voir tous les jours, quoi.
Totalement. Je peux confirmer là-dessus. Je savais pas où je m'embarquais quand je suis arrivé. Et c'était un voyage assez fabuleux à faire.
Et donc, c'est ça, la quatrième dimension, c'est cet espace qu'il y a entre le réel et l'imaginaire, entre beaucoup de choses, et qui vous embarque, voilà.
Et est-ce qu'il y a beaucoup, est-ce qu'il y a de l'improvisation ou c'est uniquement de l'interprétation de texte?
Non, selon certains, il y a une grande part d'improvisation, oui.
Non, non, quand même, il y a une structure.
Mais il y a une structure, oui, aussi. Oui,
d'abord, il y a une structure sur laquelle on peut peut-être se reposer pour de l'impro.
Voilà, on a le champion là à côté qui apprend pas son texte et qui du coup improvise.
Comment ça, on peut pas apprendre son texte? Je comprends pas ça, moi.
Non, non, c'est, non, non, c'est des rumeurs.
Non, non, il y a une vraie structure, il y a du texte. Certaines scènes étaient très bavardes. D'ailleurs, hein, c'était très dense. Donc, non, non, c'est...
Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que à la base, le travail d'improvisation, on le fait toute l'année. Donc, il a... Enfin, pas que ça, bien sûr, hein, on travaille aussi sur des textes, mais ça a beaucoup nourri le travail sur cette pièce. C'est-à-dire que c'est comme un relais, quoi, l'improvisation qu'on en a. Tout ce qu'on a pu créer ou tout ce qu'on a pu laisser aller ou tout le lâcher-prise qu'on a pu acquérir dans le travail d'improvisation que nous fait faire Nancy... nous a permis de construire les scènes au fur et à mesure d'une façon plus adéquate, plus rapide, et puis de nous adapter à quand même, parce qu'il y a un aspect fantastique dans cette pièce qu'il a fallu retranscrire. La série d'origine, donc fin des années 50, elle n'est pas truffée d'effets spéciaux non plus, hein, c'est quelque chose d'assez simple, mais il y a quand même des effets qu'au cinéma on ne retrouve pas forcément au théâtre, et avec une économie de moyens, il fallait recréer ça. Donc notre... petite capacité, je parle pour moi, mais qu'on a pu acquérir d'improvisation, nous a aidé là-dedans. Il nous a permis de... Il y a même des gens qui lorsqu'ils ont vu la pièce, j'en dirai pas plus, mais ont imaginé que, que la salle était plus grande, ont imaginé des tas de choses qui se passaient derrière, devant, dans des endroits que l'on avait, dans lesquels on avait attiré l'imagination des gens, qu'on a sollicité l'imagination des gens, et ça a permis d'aboutir à ce que les gens soient complètement embarqués pendant une heure.
Et... Oui, c'est ce qui peut-être aussi permet plus de créativité, l'improvisation, aussi en amont dans le travail pour préparer la pièce, pour préparer... est-ce que ça a été le cas pour savoir comment mettre en scène aussi? Est-ce que l'improvisation, ça a été en amont important pour vous?
Oui, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne d'ailleurs. Hein. Donc, on prenait les titres des épisodes et je les faisais improviser justement sur le titre, quoi, comme un thème donné. Et eux, ils improvisaient et forcément, ça créait plein de scènes, plein d'idées et tout ça. Et donc forcément, après moi, j'ai resserré l'écriture au fur et à mesure avec ce fil conducteur. Et donc oui, l'impro est hyper importante parce qu'il peut tout se passer, ils retomberont toujours sur leurs pattes quoi qu'il arrive, et ça a vraiment aidé à faire avancer en tous les cas le spectacle.
Et à la différence du cinéma, au théâtre, le décor est important en fonction des pièces, donc là il a eu une réelle importance pour celle-ci.
Alors il y a zéro décor.
Non, mais il y a des accessoires.
Mais par contre, voilà, j'ai...
Et des lumières.
Il y a des lumières.
Des jeux de lumière
très importants, la musique qui accompagne forcément. Et effectivement, on est parti sur une base... le costume était noir, quoi. Enfin, voilà, on était tous en noir. Et puis, il y avait cette touche de costume ou d'accessoires très colorés. Et du coup, juste ça, ça embarquait, ça crée vraiment des personnages, ça embarquait les gens dans des... dans la deuxième scène, on avait l'impression d'avoir des jouets, quoi. Enfin, voilà, il y avait vraiment cette sensation.
En l'ayant vu d'un point de vue de spectateur, c'est vrai qu'on a... On ressent vraiment les personnages suivant les habits et la tenue des comédiens. Et c'est ça qui est aussi fabuleux à voir. On voit les comédiens se transformer d'une tenue à une autre quand ils changent de personnage. Et ça, c'est très fort, quand même. C'est très fort. Je pense que, en effet, l'improvisation, c'est la base là-dedans pour réussir à jouer un personnage et à se l'approprier. À prendre les mimiques de tel ou tel personnage, s'imaginer tout un autre monde. Mais ouais, voilà.
Et puis on a beaucoup travaillé sur l'univers, hein, un univers, une ambiance un peu particulière, parce que ce que je voulais surtout pas, c'est qu'on soit dans une caricature de quelque chose. Enfin, on aurait été à côté de la plaque, je pense. Et justement, là, ce qui marche, c'est que vraiment, ça peut être très léger à certains moments, mais en fait, comme on change à chaque fois d'ambiance, d'univers, et on y croit, quoi.
L'enjeu, c'était de trouver l'équilibre entre tous ces éléments pour pour savoir amener le spectateur où tu voulais.
Exactement. Voilà.
Et sur scène, vous êtes combien alors
Alors, ils sont 12 comédiens.
12, 13, 14. Non, voilà, 12.
Peut-être 17.
Peut-être 17.
Non, il y a 12 comédiens. Et puis, oui, voilà, j'étais à la régie, du coup. Et Manon aussi à la régie Lumière, voilà, qui a super bien bossé en peu de temps.
Parce que toi, du coup, donc, tu es l'unique metteuse en scène. Et tu sais aussi tout ce qui est en régie, tout ce qui est lumière. Est-ce que toi, tu t'es touche à tout ou tu as une équipe autour de toi coordonne l'ensemble de ces éléments?
Non, non. Ben, après, on fait avec ce qu'on a. Donc, effectivement, je touche aussi un peu le son et la lumière. Mais c'est très basique parce qu'on n'a pas du matos de malade au théâtre. Mais oui, quand même. Quoi, c'est...
Donc, petit appel à bénévoles, si vous voulez vous investir dans le montage de pièces de théâtre ou tout ce qui tourne autour de ça, n'hésitez pas à rejoindre cette belle troupe.
Ah oui, vous serez les bienvenus, oui, ça c'est sûr. Je ne sais pas si on peut préciser encore qu'il y a le 9 juillet, il y aura un spectacle que moi je considère quand même comme un petit événement pour le studio théâtre. C'est une dame qui a une troupe dans le nord de la France et ça s'appelle Ma vie de sirène. Ça a porté sur les problèmes de genre, d'identité, de violence faites aux femmes. Et ça risque d'être très intéressant. Donc je voudrais pas qu'il y ait, par faute d'information, il y ait très peu de monde pour assister à ce spectacle. Il vaut le coup d'être défendu.
Tu as raison, Antoine. D'ailleurs, il y avait un autre spectacle qu'il y avait eu il n'y a pas si longtemps sur la journaliste.
Sur, oui, tout
Anna
à fait.
Polishko,
et s'il y a une reprise, je vous invite à aller les voir.
Et d'ailleurs,
aussi.
Ils vont venir rejouer.
Parce que c'était un spectacle formidable sur, et qui permet. C'est un décryptage du monde actuel aussi.
Est-ce qu'on a une date à partager pour...
Non, pas...
Pas encore. Pas en...
Non, non, oui, je pense que là, il y a la com qui part pour juillet et ensuite pour dès septembre, en fait. Hein, la reprise, c'est dès le 10 septembre. On fait une porte ouverte donc le samedi. Et ensuite, on démarre les ateliers. Donc, les inscriptions sont ouvertes.
Alors, il nous reste 5 petites minutes et je rebondis sur ce que tu viens de dire, Nancy, par rapport à ces ateliers. J'ai vu qu'il y a énormément d'ateliers donc, pour les adultes, pour les adolescents, il y a des stages, des interventions aussi en extérieur. Est-ce que tu peux nous en parler peut-être pour les 5 minutes qui nous restent?
Bien sûr. Alors, pour les interventions extérieures, cette année, je n'ai pas eu trop le temps aussi de m'investir ailleurs. Mais effectivement, il y avait peut-être... des projets que j'aimerais mener à bien avec Wake Up Café. Voilà, enfin, c'était juste une rencontre et je trouve que le principe d'aller faire des ateliers là-bas avec des jeunes sortants, ça peut être sympa.
Tu as envie de développer
Oui, effectivement. Et puis après, le but, c'est quand même de faire venir les gens au studio et... Donc, et j'aimerais aussi faire des ateliers avec des enfants plutôt primaires. Donc, il y a des écoles à côté. On peut faire pas mal de choses avec le quartier. Après, à l'extérieur, on est encore dans... C'est encore une autre problématique. Il faut avoir le temps, l'énergie.
Oui, bien sûr.
Donc, Et puis, sinon, oui, il y a des partenariats avec le Média Vivant. Voilà, c'est de l'éducation populaire aux médias. Et donc, avec Jean-Baptiste Moutet, on a lui qui gère toute son association là et qui essaie de monter ce projet-là avec d'autres journalistes où on mettrait en scène des articles. Donc, ça serait des articles vivants. Ça m'intéresse beaucoup. On a déjà fait un premier jet avec sur la rafle du panier. Donc, c'était très, très bien. Urban Prod, d'ailleurs, ça s'est passé. Et on va essayer de remettre ça là, dès octobre. Voilà. Ça, c'est,
donc une rentrée plutôt riche.
Oui, pas mal.
Théâtre.
Oui.
Et cet été, la structure fonctionne de quelle manière? Il y aura aussi des ateliers?
Les ateliers s'arrêtent pour l'été. Mais moi, je propose donc des stages. Là, pour l'instant, j'en propose un donc, pour les adolescents du 11 au 14 juillet. Et ensuite, il y a un concert jazz qui est plutôt sympa. Enfin, ça a l'air pas mal.
Le, donc, 2,
le
juillet.
2 juillet. 2 juillet. À 20h30. Hein. Et donc, je suis une sirène.
Le 9.
Un spectacle le 9, voilà, interdit aux moins de 15 ans.
Hein. Oui, mais enfin, bon.
Non, ben c'est...
Oui, mais il y a des adultes aussi.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pour préciser que... Enfin, voilà, c'est pas tout public.
Non.
D'accord. Donc, le studio est ouvert en juillet, voilà.
Ouvert en juillet.
Il y a plein de choses à faire.
Oui, voilà. Avec des stages, donc, pour prendre conscience de son potentiel artistique, créatif. Mm-hmm. C'est ça aussi ton envie à travers ces stages
Exactement.
Pour les personnes qui s'y inscrivent.
À savoir, quelquefois, qu'il y a des apéros le vendredi aussi.
Aussi, oui.
Le vendredi soir,
si vous avez, si vous avez envie de prendre un premier contact sans vous engager, vous pouvez venir.
Des apéros guinguettes, des projections. Voilà, il y a plein de projets en vue, des lectures vivantes. Enfin, voilà, on a plein d'idées. Maintenant, il faut mettre tout ça en place.
On a même de la bière sans alcool, hein, pour les gens qui...
Ah bon ?
Avec modération, donc...
Donc n'hésitez pas, foncez vers le studio théâtre si vous avez envie de découvrir un peu plus de culture ou même juste vous amuser, vous laisser aller. Les ateliers, ils seront faits pour vous, pour vous faire du bien, pour se sentir bien dans son corps, ressentir son corps, ressentir ses émotions. C'est aussi ça le théâtre, pour savoir jouer avec derrière. Et ça fait un bien infini de jouer avec son corps et ses émotions.
Ah oui, je rebondis sur
merci
ce que tu
Arthur.
Dis parce que merci. Le jeu et le lâcher prise, c'est vraiment ça. Hein. Que si les gens se posent des questions sur est-ce que j'ai envie de faire du théâtre, est-ce que je pourrais. Beaucoup de gens se le disent. Parfois, ils viennent à des scènes ouvertes, pas des portes ouvertes, et ils hésitent à revenir. Il faut vraiment franchir le pas, et c'est vraiment un lieu bienveillant.
Et d'ailleurs, on propose. Enfin, hier, on a proposé un atelier théâtre extérieur sur la plaine. Donc voilà, restez à l'affût sur nos réseaux et puis...
Oui, donc on peut vous retrouver d'ailleurs en parlant de réseaux, donc sur lesquels, pour suivre votre actualité sur Facebook, peut-être
Facebook,
Instagram.
C'est facebook.com, Studio Théâtre Marseille, tout attaché.
D'accord.
Donc voilà, et Instagram aussi, Studio Théâtre.
Très bien, mais écoutez, je pense que nos auditeurs... ont été portés par vos projets, par votre énergie, votre enthousiasme. Merci beaucoup à vous trois d'être venus ce soir.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
Et on va vous laisser présenter la musique que vous avez choisie pour notre pause musicale pour l'issue de cette première partie.
Eh ben, c'est le thème principal de Vertigo, de l'excellent Bernard Herrmann, et qui nous a inspirés sur plusieurs scènes de Zone d'ombre.
Belle écoute. Bonsoir, nous sommes en deuxième partie d'émission avec Marin et Arthur et nous avons donc présenté en première partie le Vasilissa Théâtre et en deuxième partie, nous avions à cœur de vous présenter Mélina qui est notre animatrice, qui fait partie de notre équipe et qui est photographe et qui a débuté une exposition il y a quelques mois et qui est toujours en cours au Café Lécomotive à Marseille. Et elle pratique la photographie de rue. Elle délivre un regard très profond sur Marseille, où elle habite à nouveau, sur Londres aussi et Paris, où elle a également vécu. Et ces clichés sensibilisent, à mon sens, à la beauté dans la simplicité des choses, des endroits qu'elle explore au cours de ses virées solitaires, de ses voyages et de ses escapades. Bonsoir Mélina.
Bonsoir Chloé.
Alors, nous sommes ravis de te recevoir en tant qu'invitée ce soir. Et je vais peut-être te laisser te présenter, nous expliquer ton parcours, les étapes importantes de ton apprentissage à photographie, puisque nos auditeurs ne te connaissent peut-être pas encore.
Eh bien, merci beaucoup de m'avoir proposé de venir ici ce soir. C'est ma première fois sur le plateau, parce que d'habitude, je suis en régie. Alors, je suis très contente d'être ici et de pouvoir parler de mon exposition. Concernant la photo, c'est vraiment un médium que j'ai toujours utilisé et toujours apprécié. J'ai fait des études de cinéma à Londres et je pense que ça a justement attisé ma curiosité par rapport au fait de cadrer en fait les choses, de les capturer. Et le cinéma, c'est principalement une succession de photos. En tout cas, moi, je le perçois comme ça. Donc j'ai beaucoup justement d'influence par rapport au cinéma, oui.
Alors capturer, c'est vrai que c'est un mot que tu viens d'utiliser. C'est vrai qu'avec l'équipe de la radio, on a pris le temps avec Camille, Arthur et Marin de voir ton exposition. Et à travers elle, j'ai vraiment l'impression que tu aimes justement capturer ces images comme tu vois le monde, comme une poésie visuelle de la rue, et que tu prends des photos sans phare, sur le vif pour l'essentiel, et que tu as envie de transmettre comme un témoignage qui apporte quelque chose à la fois sur l'instant et qui peut laisser une trace, et aussi de transmettre ce que le monde a de mystérieux, ce que parfois on ne regarde pas. Et est-ce qu'il y a de poétique dans les choses simples de la vie? Est-ce que c'est des choses qui te parlent?
Oui, tu l'as...
Est-ce que j'ai bien saisi?
Oui, tu as très bien saisi mon regard photographique. Je m'arrête sur des choses qui paraissent anodines, enfin des choses plutôt banales, mais qui pour moi ont du sens une poésie. Par exemple, je pense au ciel rose de la plaine. J'avais pris cette photo en fait juste avant que le marché de la plaine ferme et qu'il y ait ces manifestations. En fait, j'étais de retour sur Londres.
Ouais.
Et bon, c'est une petite anecdote. J'étais allée acheter le pain parce que j'habitais dans ce quartier. Et en retournant chez moi, j'avais mon appareil photo autour du cou et je croise une dame et qui me dit de regarder le ciel. Et en fait, on était toutes les deux sur la plaine et il y avait une espèce de, enfin, une atmosphère très, très bizarre. Et en regardant le ciel, en fait, on était baignés dans ce rose, dans cette poésie. Et on était là toutes les deux en train... Enfin,
et tu as su capturer cet instant présent?
Oui, par chance, parce que j'avais mon appareil photo.
Et c'est vrai que ça me fait penser à une phrase qu'a dit Bernard Moliva, qui est auteur et photographe de rue aussi. Et il dit « Ces petits moments n'ont pas l'intensité des grands événements. Ils sont même parfois dérisoires, mais c'est justement cette apparente insignifiance qui rend la photographie de rue nécessaire. » Oui. C'est vrai que c'est assez juste et c'est ce que tu décris.
Oui, tout à fait. Cette exposition, elle est sur Marseille. Elle culmine autour de Marseille. Mais c'est aussi des regards que j'ai portés sur d'autres villes dans lesquelles j'ai vécu, notamment Londres, Paris, Séville, que je souhaite faire converger en fait dans cette ville. Quand je suis revenue sur Marseille il y a à peu près 2 ans, j'ai souhaité faire cette exposition pour... symboliquement, c'était une façon de m'installer et de montrer, oui, c'est ça, et de montrer aussi tous les petits bagages et les différents regards que j'ai portés sur d'autres villes et le montrer parce que Marseille, c'est vraiment une ville particulière justement par rapport à la façon dont les gens se regardent. Pour moi, ça a toujours été une ville où on sait qu'on existe parce qu'on est regardé. Alors, on peut être regardé de 1000 façons, en fait, dans cette ville. Mais toujours avec bien...
parce que c'est vrai bienveillance, qu'on, avec oui. bienveillance, parce que c'est aussi ce qu'on peut retrouver à Paris. J'y habitais comme toi et c'est vrai qu'on se regarde beaucoup. Ça a beaucoup d'importance, l'apparence, les choses comme ça. Mais peut-être que le regard est différent dans d'autres villes telles que Marseille.
Oui.
Avec un autre regard. Tu as trouvé, toi, en tout cas, observé ça, que les gens s'observent d'une manière différente.
Oui, un regard parfois amuseur, amusant. Enfin, les connexions se font beaucoup par le regard. Et ça m'a beaucoup marquée. Et je pense aussi que ça m'a formée, justement, ça a formé mon regard de photographe à appréhender ce qui se passe autour de moi et à réagir justement, à être attentif en fait aux personnes, aux bruits, aux odeurs, à la façon dont les gens ont de déambuler dans la rue.
Oui, toi tu fais le constat que la photographie de rue, elle nous oblige peut-être à être plus attentifs aux autres, à ce qui nous entoure, aux gens.
Oui, complètement. La photographie de rue, c'est, c'est être sur le qui-vive et avoir tous ses sens en émoi pour découvrir en fait quelque chose qui... le spectacle vivant, le spectacle humain. Oui.
Et est-ce que Marseille t'inspire plus que d'autres villes ou on ne peut pas comparer? C'est des villes tellement... avec une richesse très différente d'une à l'autre, peut-être que c'est incomparable, mais est-ce que Marseille, elle t'inspire d'une certaine manière, d'une manière différente qui te porte?
Disons que dans les villes dans lesquelles j'ai vécu, je vois de Marseille et inversement. Par exemple, à Paris, j'ai vu de Marseille et dans Marseille, des fois, je vois de Paris. Donc, en fait, je me fais des associations.
Ah oui, elles se font miroir sur certaines choses.
Oui, c'est ça, je fonctionne beaucoup comme ça. Et c'est comme mes influences aussi, tu vois, j'arrive à m'inspirer autant de la peinture que de la danse, de la musique. Tout ça, ça me pousse vraiment à capturer des moments... des moments qui me plaisent, en fait, qui me poussent, qui me portent, tu vois. Quand je vais dans la rue, je pars pas nécessairement avec une idée en tête.
Oui, voilà, c'est ça que j'avais envie de te poser comme question. Quelle est la manière dont tu travailles ? Est-ce que tu t'aimes sortir et prendre au hasard des photos ? Ou au contraire, est-ce que tu aimes avoir une vraie réflexion en amont, un vrai travail et te dire, bon, je vais photographier cet endroit dans cette ville ou tu flânes et tu déambules et...
Oui, c'est plus de déambuler dans les rues et voir, attendre ou suivre, en fait. Tu vois, comme par exemple... Sophie Kahl, elle suivait des inconnus dans la rue pour pouvoir écrire des textes, justement, un espèce de jeu de cache-cache et de suspense. Et elle se prêtait à ce jeu. Et moi, c'est un peu me perdre, en fait, dans une ville et suivre ce qui attire mon œil. Et après, justement, les projets arrivent. Et là, je commence à conscientiser, tu vois, et à me dire, bon, qu'est-ce que je peux faire avec ça ?
D'accord, oui. Donc, toi, c'est plutôt des photos que tu vas prendre au hasard et ensuite, le travail se fait ensuite après.
Oui, oui, oui.
De construction. Parce que c'est vrai qu'à travers ton exposition, moi, j'ai remarqué qu'il y a plusieurs choses qui reviennent sur tes photos, notamment un travail, enfin, un œil sur l'architecture de la ville, les ombres aussi, la réflexion avec des jeux de miroirs. Les silhouettes, l'œil du détail, est-ce que c'est une vraie volonté de ta part ou c'est des choses qui viennent naturellement dans ton œil de photographe ?
Oui, non, tout à fait. C'est, en fait, c'est comme... tu découvres des choses qui t'intéressent et petit à petit, ça devient comme une obsession. Et t'as envie d'aller à la poursuite de ça parce que c'est satisfaisant pour toi et t'as envie de le partager aussi. Par exemple, les escaliers, les lignes. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'hyper organisé, on va dire.
Comme beaucoup, et, comme moi.
Et ça, je pense qu'il y a l'architecture, justement, de photographier ça me rassure d'un côté de voir cette stabilité, les ombres aussi, j'aime beaucoup en fait la fluidité du mouvement, des ombres coulantes, ça me fait penser à du café projeté au sol, enfin ça me fait penser à plusieurs choses, et les réflexions aussi, ça c'est, je pense que c'est inhérent à tout photographe, tu vois, de trouver une réflexion dans une réflexion, comme dans tu sais, le le film de... je crois que c'est Dali, tu sais, c'est un film de Woody Allen, il me semble, où t'as Adrien Brody qui joue le rôle de Dali, mm-hmm. Et t'as ce passage où il raconte qu'il essaie de capturer le rhinocéros dans la larme et que dans la larme il y a autre chose, tu vois, c'est un système de poupée russe, et la réflexion c'est un peu ça, tu vois, de chercher à l'intérieur de quelque chose, autre chose...
Oui, c'est ça qu'on retrouve, je trouve, ouais, dans l'ensemble de tes photos. Et pour beaucoup de photographes, de ce que j'ai compris, le cadrage et notamment la lumière sont des choses essentielles, sont essentielles pour eux. Et d'ailleurs, Trinck Marc, un autre photographe, dit que c'est la lumière qui tourne l'ordinaire en magique et que sous la lumière appropriée, tout devient un sujet intéressant à photographier.
Oui, et tu peux tout sublimer avec la lumière, par exemple... Ce micro, je sais pas, le micro rouge là, tu vois, tu peux le positionner d'une façon à ce que ça apparaisse comme un nez de clown avec la lumière adéquate. Oui.
Et laisser parler l'imagination.
Oui, oui, c'est ça. Oui.
Et est-ce que tu peux nous sélectionner une de tes photos de ton exposition et nous raconter peut-être son histoire ? Tout à l'heure, tu nous as parlé de ce ciel rose que tu as observé avec cette inconnue.
Oui.
Est-ce que tu pourrais nous décrire une autre de tes photos avec son histoire, le moment ?
Oui. Alors, c'est une photo qui est assez difficile à... Enfin, je dirais pas comprendre, parce que je sais pas si on peut... Enfin, c'est pas le sujet, en fait, de comprendre, mais de savoir qu'est-ce que c'est. Et ça interpelle pas mal de personnes. C'est une photo, en fait, d'une goutte d'eau. Où à l'intérieur de cette goutte d'eau,
les reflets,
il y a un bâtiment. Et cette photo, en fait, j'en suis assez fière parce que j'ai passé des heures et des heures avant de pouvoir la prendre et qu'on puisse justement apercevoir ce bâtiment Et voilà, ça c'était une photo. J'étais assise en face de, enfin, à ma fenêtre, il pleuvait.
À Marseille.
À Paris.
À Paris.
Oui, oui, il faut bien faire dans le cliché. Hein. S'il pleut,
c'est à Paris.
Voilà. Et donc, je m'ennuyais. Donc, je regardais les. J'ai pas mal de photos d'ennui aussi, où je reste comme ça, posée à une fenêtre. J'aime beaucoup prendre des photos à travers les fenêtres. Et j'observais les personnes dans la rue. Et je vois cette goutte d'eau, et en fait, en regardant dans cette goutte d'eau, j'ai vu qu'il y avait des choses qui bougeaient. C'était les oiseaux qui passaient. Enfin, je pouvais... C'est comme un espèce de monde, tu vois, une espèce de boule. Et donc, j'ai dû attendre pendant longtemps pour avoir le bon focus.
Comme quoi, dans une simple goutte d'eau, on peut trouver la poésie d'un moment de vie. C'est incroyable. Heureusement qu'il y a des photographes comme toi pour saisir ces instants. Et tu nous as expliqué aussi que tu travailles sur un projet depuis plusieurs mois, ton envie de photographier des artisans, leur travail, le geste, la matière. Et je trouve que c'est une approche effectivement très intéressante et d'ailleurs qui fait écho à un passage d'un livre que j'ai acheté la semaine dernière à Essaouira au Maroc. Un magnifique livre qui conjugue les photos de Sylvie Bouadi et des écrits d'Alice Guibert que j'avais envie de vous lire ce soir. Essentiel, artisans discrets de nos vies, femmes et hommes anonymes sont les créateurs de nos joies simples. Grâce à ceux qui captent et transforment les fragments d'un patrimoine millénaire, chacun trouve ici sa part de bien-être. En véritables alchimistes de la délicatesse, ils façonnent pour la répétition minutieuse de leurs gestes des merveilles sucrées, des boiseries ciselées, des tissages colorés, des parfums subtils venus des temps anciens. La cannelle et l'anis se dissipent et renaissent sous les mains de ces faiseurs de miracles, ces passeurs de talents qui ouvrent en silence. Il crée ainsi nos souvenirs les plus tenaces, saupoudrés de saveurs et d'odeurs inoubliables. Merci aux mains agiles, à l'œil attentif et au nez savant qui exhument tant de souvenirs et veillent discrètement au goût unique dont ils enrobent nos existences. Et donc toi, Mélina, tu as eu envie de capter ces instants, ces artisans.
Oui, c'est magnifique en fait ce texte parce que ça fait appel à plusieurs sens, tu vois, à la couleur, à l'odeur. Pardon. Et oui, ça fait complètement sens pour moi. En fait, il y a 2 ans, quand je suis rentrée sur Marseille, j'ai découvert un atelier de lutherie. Et j'avais un projet justement de photographier les mains d'artisans. Et petit à petit, j'ai rencontré des personnes justement qui travaillaient de leurs mains. Et quand je suis rentrée en fait dans cet atelier de lutherie, donc la lutherie c'est de la réparation et création d'instruments. Et là en l'occurrence c'est toujours de la création et réparation d'instruments à vent, donc tout ce qui est violon, alto, violoncelle, contrebasse. J'ai tout de suite été bercée en fait par l'odeur. Les couleurs aussi du bois, le son aussi du bois et des mains le bois. Et c'était très, très agréable, très satisfaisant de voir quelqu'un qui travaillait de ses mains. Et c'est quelque chose qui me fascine et je pense que ça serait bien pour tout le monde, une fois dans sa vie, de pouvoir créer ou réparer quelque chose de ses mains.
Peut-être que certains s'y sont mis pendant le Covid, qui a été une période où on a eu le temps justement de revenir à des choses essentielles. Beaucoup ont cuisiné, ont fait du pain, ont créé des choses, des objets, des bijoux ou d'autres. Et donc toi, tu as photographié donc un luthier. Est-ce que tu as photographié d'autres artisans aussi
Oui, alors j'ai photographié et capturé aussi des vidéos de luthiers, d'autres luthiers d'instruments à vent, des bijoutiers, un cordonnier, et j'ai une liste qui est assez longue, mais je n'ai pas encore rencontré tous les artisans dont j'ai envie de montrer le travail.
Le potentiel.
Oui, et le valoriser aussi.
Et ce sont des artisans uniquement sur Marseille ?
La plupart, oui, sont sur Marseille, mais j'aimerais bien aussi investir, aller autre part.
Au-delà des frontières de cette ville.
Oui.
Et du coup, là, tu es au début de ce projet ou ça va être pouvoir faire l'objet d'une exposition prochainement ou plutôt d'un livre? Tu verrais ça de... C'est toujours en réflexion peut-être, hein, mais...
Oui, c'est encore en réflexion au départ. C'était de faire un documentaire, donc filmé. Là, je me dis qu'il faudrait d'abord que je fasse des photos, peut-être un livre après, et après un documentaire, parce que j'ai beaucoup de matériel, mais ça prend beaucoup de temps aussi de sélectionner. C'est une des parties les plus difficiles, en fait.
Oui, de capturer ces moments, mais après de les... Je sais pas si c'est le bon terme, de les trier, de les sélectionner pour en faire quelque chose.
Oui.
Pour qu'il y ait une cohérence peut-être aussi dans... Parce que comment tu les sélectionnes, par exemple, les photos de ton exposition?
Alors, c'est par rapport au mouvement des mains. En fait, je me suis rendu compte que la plupart de ces artisans avaient une espèce de chorégraphie manuelle. J'ai l'impression de voir de la danse. Aussi, mettre en commun la gestuelle, parce qu'il y a certaines positions aussi qu'ils adoptent pour réparer et les mettre en commun, c'est ça, les mettre en miroir, justement. Oui, voilà, c'est ça.
Les fameux. D'accord, donc tu les sélectionnes de cette manière. Donc on rappelle, donc c'est l'exposition de Mélina, Marseille, ma belle, et autres lieux tant aimés. Donc au café Lécomotive.
Oui.
Et on peut la voir, cette exposition, jusqu'à quand? Il y a une date butoir ou encore quelques jours peut-être? Faut, je pense, y presser. peut-être cet été aussi.
Peut-être jusqu'à fin juillet.
Jusqu'à fin juillet, d'accord. Eh bien écoute, en tout cas Mélina, merci beaucoup pour ta venue, de nous avoir présenté ton travail, ta passion, parce que je pense que c'est peut-être au-delà du travail, elle fait partie de ta vie, cette photographie.
Oui, 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 je la trimballe.
Tous les jours, tu as ton appareil sur toi et...
Alors pas forcément mon appareil, parce que parfois j'ai comme tout le monde un téléphone, mais oui. Écoute, merci beaucoup de m'avoir recevoir et de m'avoir...
À très bientôt et très bonne soirée à tout le monde.
Bonne soirée, au revoir.